Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance d'essai. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Perdre ses moyens en public, y compris en petit comité, rester en retrait, ne jamais faire entendre sa voix, n'être jamais satisfait de son image et rejeter les compliments, y compris ceux qui viennent du cœur. S'il est fréquent de s'interroger sur la bonne attitude à adopter, s'il est normal à l'occasion de renoncer par prudence ou pour éviter une déception, cela devient problématique lorsque le doute devient une seconde nature, lorsque tout projet se retrouve mis entre parenthèses, faute de confiance en soi. Une dévalorisation problématique, voire invivable pour soi comme pour son entourage, lorsque l'on passe son temps à se dénigrer, lorsque le reflet dans le miroir nous insupporte, lorsqu'on s'en sent mal dans sa peau tout simplement. Alors comment expliquer que pour certains, tout ne soit que légèreté, y compris lorsque l'on a un physique assez atypique, quand pour d'autres, l'allure constitue un fardeau et que chaque jugement fait l'effet d'un coup de poignard. À quel moment de la vie se décide cette capacité à mettre de la distance et à se construire sur des bases solides? Mal dans sa peau, bien dans sa peau, confiance en soi et estime de soi. Pour répondre à toutes vos questions avec nous en studio, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris et vous avez signé, docteur Gavard, le livre « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié aux éditions Marabout. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le professeur Prosper Gandao, qui est chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire de Borgou à Parakou. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Alors docteur Marie-Claude Gava, première question pour bien comprendre le cœur de notre sujet. Est-ce qu'on peut expliquer la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi?
Oui, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne ou que l'on ne se donne pas. La confiance en soi, c'est la capacité à aller à agir. C'est-à-dire qu'on peut quelquefois agir tout à fait positivement en ayant une mauvaise image de soi parce que on est poussé à le faire, on n'a pas le choix, on a vu qu'on avait des résultats sympathiques, donc on y va. Mais si on se pose la question, là ça peut agir comme un frein si on manque d'estime de soi, c'est-à-dire si on se dévalorise.
Et les complexes, ils s'inscrivent justement dans ce manque d'estime de soi?
Ah oui, les complexes s'inscrivent le plus souvent dès la petite enfance par rapport à ce qui a été vécu. Alors évidemment, avec le temps, lorsque la souffrance est accompagnée d'un frein, parce que le frein peut être à peu près dans toutes les directions de sa vie, il y a tout intérêt à faire le point, à aller se faire aider pour enfin avoir une vision objective sur soi-même.
Il y a des personnes qui consultent Dr Gavard simplement parce qu'elles ont des complexes, je dis simplement, mais ce n'est pas simple.
Vous dites simplement, or c'est la grande majorité des patients qui viennent en thérapie, qui souffrent essentiellement de manque d'estime de soi, de manque de confiance et de difficulté à agir ou d'une douleur sourde qui envahit le quotidien.
Est-ce que vous diriez que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est parce que la société est faite comme cela, y compris les structures familiales, ou c'est quelque chose qui existe depuis toujours?
Alors, je pense que ça existe depuis toujours avec des variations. À l'heure actuelle, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la facilité d'être en contact, il y a une comparaison qui est devenue extrêmement pathologique. C'est-à-dire qu'avant, avec ce peu de médias, on se comparait pas aux artistes, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a au niveau de la publicité et des choses comme ça, un regard sur soi qui est remarquablement dévalorisant. Et ça, il est important d'en avoir conscience, qu'on n'existe pas dans un regard de l'autre que l'on imagine, mais on existe en soi. Il faut faire le point sur soi-même.
Et justement, avant d'en arriver justement à ce moment des réseaux sociaux, de l'image, du selfie, il y a quand même une étape essentielle. Et cette étape, comme toujours quand on parle de soi, c'est l'enfance.
Ah oui, absolument. Si les parents ont réussi à donner confiance à leur enfant, moi j'ai envie de donner un exemple qui est très parlant. On imagine qu'on a un tonneau. Si les parents ont mis un fond à ce tonneau, c'est-à-dire la sécurité, l'amour, la sécurité, l'enfant, et ensuite l'adulte, peut recevoir les compliments, peut voir des résultats positifs, et tout ça se sédimente avec un vrai plaisir de soi. Les expériences négatives ne sont pas dramatisées, elles servent d'expérience, et tous les compliments font du bien et sont crus. Si, à contrario, un enfant n'a pas eu cette base, un compliment va passer dans ce tonneau et va fuir. C'est-à-dire, il ne va pas faire un plaisir long. Ça va être extrêmement ponctuel et l'enfant devenu adulte n'aura pas d'estime de lui-même et pas de confiance en lui. Il peut quand même agir et tous les compliments vont être à peine perçus et ne vont pas construire la personne.
Et sur ce chemin, justement, pour devenir adulte, il y a une période charnière, c'est l'adolescence. D'ailleurs, à ce moment-là, quand on vit avec des collégiens ou des lycéens, on entend des termes comme populaire, je suis nul, j'ai eu une mauvaise note. D'ailleurs, même y compris certains professeurs qui se permettent de dire à des élèves, vous êtes nul. Quand on comprend le sens du mot nul, nul c'est rien, nul c'est zéro, c'est d'une violence inouïe.
C'est une violence inouïe et ces professeurs-là ont eu cette éducation judéo-chrétienne qui nous caractérise. Et donc, pour eux, quand ils font une erreur, ils doivent se penser nuls également. C'est-à-dire qu'au niveau de la pédagogie, il y a quelque chose à changer en urgence.
Alors justement, on a parlé de ce qui peut abîmer. Qu'est-ce qu'il y a comme facteur qui, à l'inverse, peut améliorer l'image de soi? Je disais tout à l'heure en introduction, des personnes, on dit, qui ont un physique pas facile et qui pourtant éclatent. On voit ça par exemple au cinéma, des femmes qui sont superbes, qui sont en dehors de tous les canons, de tous les standards. Comment se forge justement cette solidité intérieure?
Alors la solidité intérieure, pour moi, soit elle résulte d'une enfance sécurisée, et les parents ont encouragé. Les parents n'ont pas comparé avec un frère, une sœur plus doué, plus beau, plus tout ce qu'on veut, plus intelligent. Donc là, c'est une sécurité de base. Après, il peut y avoir un travail sur soi au niveau de la souffrance. On peut en avoir assez de souffrir constamment et on se rend compte qu'on se compare à quelques personnes de son entourage alors que nous sommes 7 milliards d'individus et que la comparaison est une aberration. C'est-à-dire, on a tous des qualités et des défauts et donc il est important de savoir que l'être humain a forcément des petits traits névrotiques et il n'y a aucune raison de les dramatiser, mais il faut tenir compte de ses qualités et les développer. Et au niveau des défauts, il y en a qui sont arrangeables. Donc, plus nous sommes objectifs, plus nous allons pouvoir avancer. Et c'est pour ça que lorsque on bloque avec les idées presque comme un hamster dans sa roue, je suis nul, je n'y arriverai pas, etc., il est important d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir redonner ou donner un regard objectif sur soi.
Mais quand même, docteur Marie-Claude Gavard, on peut dire que le monde est dans la norme, il faut ressembler à ceci, à cela, dans la rue, dans le langage, quand on se parle, les gens se comparent, les gens évaluent les uns par rapport aux autres, quand on est au travail, on a des évaluations, quand on est à l'école, on a des évaluations, tout n'est que comparaison.
Oui, et tout n'est qu'aberration à ce niveau-là. Donc, on a intérêt à écouter, on est dans le système, à ruser quelquefois. Et lorsque on est écrasé par le système, voir que le système a un petit côté fou. Et donc, ne pas se dévaloriser par rapport au système.
Docteur Marie-Claude Gavard, tout de suite, on va prendre en ligne les auditeurs et les auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Premier auditeur qui est en ligne du Congo-Brazzaville, cet auditeur, c'est Brice. Vous êtes à Brazzaville. Brice, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Gavard est à votre écoute, allez-y.
Bonjour également docteur Gavard.
Bonjour.
Je suis, comme il est dit, du Congo-Brazzaville. J'ai aujourd'hui une femme que j'ai épousée il y a cela une année et demie. C'est une fille qui a beaucoup souffert de l'inconsidération de la part de ses parents. Elle n'a pas bénéficié de beaucoup de compliments, de beaucoup d'encouragement de la part de ses parents, et qui a contribué un peu à son renfermement. Elle était donc timide et n'a donc pas eu la possibilité d'aller vers des amis. Et toutefois qu'elle essayait de le faire, elle était repoussée malheureusement et par les filles et par les garçons. Ce qui pouvait pourtant lui donner la possibilité d'aller vers des amis filles si les garçons la repoussaient, mais sauf que c'est tout le monde en tout cas qui la repoussait. Et donc cela a contribué un peu à la rendre naïve, si bien qu'elle est allée s'attacher à une personne de qui elle espérait obtenir quelque chose vraiment de fiable qui pouvait la remettre en confiance. Sauf que le monsieur également a eu à abuser d'elle considérablement jusqu'à lui laisser un enfant qu'il n'a jamais reconnu. Et donc, cela est grandi avec... Elle montait tout le temps dans son cœur, elle a souffert des années, jusqu'à ce qu'elle soit même arrivée à l'université où elle a voulu tenter le pire, c'est-à-dire que vouloir changer un mode de vie, prendre un appartement qui ne lui était pas habituel, faire des choses qui ne lui étaient pas habituelles, et donc vouloir paraître quelqu'un d'autre que sinon que celle qu'elle était auparavant. Et tout cela toujours dans l'échec, parce que finalement, comme qui dirait, c'était comme une malédiction pour elle. Et en Afrique, on a généralement parlé de masque de vieillesse, ça c'est dans la spiritualité africaine, mais ce n'était pas le cas. Et donc, elle est arrivée au niveau où elle se renfermait dans sa chambre, ne faisait que pleurer parce qu'elle n'était acceptée pratiquement par personne. Jusqu'au moment où je fais sa rencontre dans ma communauté religieuse et je l'ai fréquentée, elle a eu à m'expliquer sa situation. Ce n'est pas que je l'ai prise par pitié, mais j'ai trouvé en elle une force. La force qui l'a conduite à résister à tout cela malgré la douleur. Et lorsque je suis parvenu à lui demander la main, elle était hors d'elle. Elle n'en revenait pas que quelqu'un pouvait l'accepter comme telle. Et donc, connaissant sa douleur, connaissant sa souffrance, tout ce que j'ai eu à faire, c'est lui donner tout l'amour qu'il fallait. Et jusqu'à présent, je la prends comme une partenaire directe, comme une amie. Je ne fais rien sans son concours, je ne fais rien sans sa participation. Et donc, elle a trouvé quelqu'un avec qui elle a pu retrouver cette estime. Elle est heureuse aujourd'hui et elle raconte souvent son histoire à des amis pour également essayer de les rendre plus fortes parce que il n'y a que de l'amour des autres, il n'y a que de la considération des autres qui peuvent nous donner le reflet de notre véritable image.
C'est un très très beau témoignage, Brice. Je vais donner tout de suite la parole au docteur Marie-Claude Gavard. Moi, dans ce que vous avez raconté, j'ai une question à vous poser. Comment ça se fait, après toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, que cette confiance se soit installée aussi bien en vous, qu'elle vous ait parlé, qu'elle vous ait tout raconté comme cela? Qu'est-ce que vous avez établi comme relation avec elle, justement, pour réussir à capter sa confiance?
Lorsque je lui ai demandé la main, la première des choses que j'ai eu à faire, j'ai compris que son problème, ce n'était pas le problème de sexualité, mais c'était le problème d'être accepté. Et donc, j'ai écarté l'hypothèse du sexe avec elle. Nous avons vécu des fiançailles pendant 2 ans sans se connaître sexuellement. Et en cela, elle a trouvé que je ne venais pas pour abuser d'elle, mais plutôt d'essayer de rétablir une amitié sincère avec elle. Et à partir de ce moment-là, elle a compris que je n'étais pas un usurpateur. On peut le dire.
Docteur Marie-Claude Gavard, qu'est-ce que vous pouvez dire à Brice?
Alors, Brice, effectivement, votre témoignage est vraiment hyper intéressant, en dehors du fait qu'il soit très touchant, parce qu'en fait, votre femme a été maltraitée, il y a eu des erreurs éducatives très importantes, et elle s'est dévalorisée, et elle a cru, comme font les enfants, que ce qui était dit par les parents et par l'entourage était vrai. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie indigne, et elle s'est comportée sûrement de façon très différente des autres enfants qui avaient confiance en eux, si bien qu'elle a été le bouc émissaire du groupe. Et les groupes, malheureusement, ont ce côté cruel de chercher une victime pour asseoir son pouvoir. Donc, elle a vécu ça. Son accoutrement, ensuite, a représenté l'image négative qu'elle avait d'elle, ne pensant qu'elle ne valait que un rapport très vénal avec les hommes, puisque personne ne l'avait regardée objectivement. Lorsque vous êtes arrivée, et comme vous dites, vous avez senti en elle cette force, ça lui a permis d'avoir voir pour la première fois de sa vie vraisemblablement un autre regard sur elle et comprendre, elle a dû comprendre qu'en fait elle avait des qualités et qu'elle était aimable, c'est-à-dire qu'elle était digne d'amour. Et effectivement, cette abstinence sexuelle que vous avez eue avec elle, qui était une formidable idée, parce que elle n'a pas pensé que vous étiez attiré que par la sexualité qu'elle avait connue notamment auparavant. En dehors des sentiments, je peux vous dire que là, vous lui avez donné la main comme un thérapeute peut donner la main, c'est-à-dire permettre à l'autre de faire le point sur ce qu'il a vécu et remettre des mots objectifs sur sa réalité.
On voit bien dans ce cas précis que même si on a un parcours très compliqué avec beaucoup de souffrances, eh bien certaines rencontres peuvent être tout à fait décisives.
Ah, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le rôle de la thérapie aussi. Ça, j'insiste absolument, parce que lorsqu'on a beaucoup souffert dans l'enfance et dans l'adolescence, on a acquis de très nombreuses expériences. Et lorsque l'on s'en sort, on a une compréhension du monde et des autres absolument remarquable, que quelqu'un qui aura eu une belle sécurité pourra ne pas avoir forcément, et ça développe une hypersensibilité extrêmement intéressante. Et je pense que votre femme, de ce parcours très douloureux puis heureux, a une richesse de personnalité que beaucoup de personnes pourraient lui envier.
Voilà Brice, on vous souhaite une excellente journée à Brazzaville. On va partir pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan, où l'on retrouve Dao. Bonjour Dao.
Bonjour.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
D'accord. Vraiment merci déjà pour le thème, parce que c'est un thème très très important. Moi j'ai voulu contribuer à cette émission, à cette émission à travers un témoignage. Effectivement, j'ai rencontré pas mal de personnes dans ma vie qui avaient ce problème. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'appréciation de mes parents et donc j'ai pas eu de problème dès le bas âge déjà. J'ai appris à me valoriser compte tenu de tout ce que mes parents me disaient comme étant qualité de moi qu'ils me révélaient et que moi-même je constatais au fur et à mesure que je grandissais. Mais j'ai fait la rencontre d'une amie qui vraiment était mal en point. Elle ne s'appréciait pas physiquement. Et c'est là, lui, il faisait rester dans son coin, et voilà. Donc, j'ai pu, en tout cas, l'aider à ce niveau-là. Un jour, je lui ai dit, ben, écoute, physiquement, tu te sens pas belle. Moi, je vais pas te dire le contraire, parce que c'est toi, tu te vois d'abord. Même si je te dis le contraire, que tu ne crois pas, ça va rien changer. Donc, ce que moi, je vais te demander, c'est quoi? Observe-toi toi-même devant un miroir, et puis regarde tout ce que tu as de naturel en toi. Tes yeux, ta bouche, observe-toi véritablement et puis demande, est-ce que je mérite de me mépriser à ce point-là? Plusieurs fois, il faut te regarder devant un miroir et puis ose te dire que tu es belle. Après ces choses-là, regarde en plus, au-delà de ta beauté, la personne même que tu es. Est-ce que tu mérites de te mépriser à ce point? Tu n'as pas de comportement en toi qui fait de toi un être extraordinaire, un être vraiment magnifique qu'on doit valoriser. Penses-tu que tu es méprisable jusqu'à ce point-là? Et après avoir dit toutes ces choses, au fur et à mesure qu'on échangeait, j'ai vu qu'elle avait commencé à comprendre la chose autrement. Elle commençait à explorer des choses d'elle qu'elle-même ne voyait pas, puisqu'elle n'avait que Dieu sur les choses négatives. Donc elle a commencé à lister ses atouts naturels, tant dans son... Aujourd'hui... Allô?
Oui, on est là, Dao. Voilà, on vous écoute, on boit vos paroles.
Niveau, hein. Voilà, elle ne fait que me le répéter que grâce à moi, elle a découvert une autre facette d'elle, vraiment, elle a pu s'aimer. Et hier même, je lui ai dit que j'allais participer à l'émission de RFI concernant ce sujet. Et elle m'a encouragé, elle m'a dit que si elle avait la possibilité même de témoigner, compte tenu de ce que j'ai pu lui faire traverser. Elle allait le faire.
Bah c'est très donc, bénéfique. Voilà, c'est très bénéfique. Voilà. En tout cas, ce que vous nous racontez, Dao, docteur Marie-Claude Gavard, pour certains, le miroir peut être une épreuve. Et dans ce cas-ci, ça a été une thérapie.
Oui, tout à fait. Alors, en général, quand quelqu'un qui a un complexe se regarde dans la glace, ça ne fait qu'augmenter le complexe. Là, non, parce qu'il y a une explication en parallèle. Et puis, vous avez eu tout à fait raison de lui dire à quel point il n'y a pas que le physique. La personne est une entité avec un physique, un esprit, toute sa personnalité, toute sa sensibilité. Et donc là, elle a pu se regarder de façon différentes et pas seulement dans le miroir, évidemment. Effectivement, chacun a intérêt à faire la liste de ses qualités et de ses défauts et de voir si il rencontrait une personne avec ses qualités et ses défauts-là, si la personne aurait une mauvaise image de l'autre. Souvent, non. C'est-à-dire que là, vous lui avez fait prendre la distance, le recul d'une analyse d'elle-même où elle a pensé, elle a compris que si elle rencontrait quelqu'un comme elle, elle trouverait plutôt sympathique. Donc là, vous lui avez rendu un service extraordinaire et la reconnaissance est bien logique.
Mais aussi, elle était partante parce que, docteur Gavard, il y a certaines personnes qui sont véritablement obsédées par une partie de leur corps, même si on lui dit « tu as des yeux merveilleux, tu as une jolie bouche », si elle trouve le nez trop long, elle se focalise sur le nez, il n'y a que le nez, et on n'en sort plus.
Oui, mais parce que le problème n'est pas là. Le problème est global. Alors, il y a une fixation sur le nez, mais le problème est global au niveau d'une infériorisation, d'une dévalorisation de soi-même. Et donc, en dehors d'un détail, le détail physique, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et en thérapie, notamment, il faut aller voir la forêt.
Voilà, bah merci beaucoup Dao pour votre témoignage. On va partir pour la République démocratique du Congo, pour Lubumbashi, où nous sommes en ligne avec Sangor. Bonjour Sangor.
Bonjour Caroline et bonjour au docteur.
Le docteur Gavard est à votre écoute.
Bonjour Sangor.
Allez-y, on vous écoute.
Merci. Je voulais participer à cette émission pour partager mon expérience pénible. J'ai grandi dans de mauvaises conditions, les parents pas capables de supporter mes études. Alors des fois à l'école, mes collègues se moquaient de moi sous prétexte que j'étais né dans une famille pauvre. Et puis ça faisait que je puisse me sentir un peu moins humble par rapport à eux. Et ça m'a réduit parfois, ça me réduisait au silence. Des fois je me retirais, je les fuyais pour que je ne sois pas l'arrivée de mes amis. Tout ça fait que je ne puisse pas avoir la confiance en moi-même. Donc, je voudrais savoir si ce passé pénible peut avoir des conséquences néfastes sur mon développement mental ou cognitif. Parce que des fois, devant un examen oral, je me vois un peu capable. Je peux avoir de bonnes réponses, mais je réponds. Je rate comme ça l'examen. On me demande de revenir à la deuxième session alors que j'avais de bonnes réponses. Donc, je sens que je n'ai pas confiance en moi-même. Je me demande, mais est-ce que ce passé-là qui me rattrape? Ou il y a un autre motif.
Sangor, vous étiez...
C'est là qui me rattrape.
Oui, Sangor, vous dites que vous étiez d'origine modeste, mais quand même aujourd'hui, vous êtes étudiant, donc vous avez progressé, vous avez avancé.
Oui, j'ai avancé, mais pour payer, ça demande un peu toujours beaucoup de gymnastique. Donc, je me débats de gauche à droite. Parfois, j'ai fait recours à telle ou telle autre personne qui puisse m'aider. Parfois, les oncles, parfois aussi les amis, quand ils me voient... que je me découvre bien à l'école, mais les jours de l'examen, je ne suis pas là, je leur dis que j'ai manqué d'argent. Il y en a même qui m'aident avec une somme d'argent pour que je passe d'une promotion à l'autre. Alors ça m'affecte encore davantage.
Des conditions de vie difficiles, hein. Là il ne s'agit pas d'un complexe, il s'agit simplement de problèmes de ressources financières, c'est bien compréhensible, docteur Marie-Claude Gavard. Et quand Sangor arrive en examen, qu'il manque de confiance en lui, on voit qu'il a l'air d'être sujet au trac, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors, moi j'aimerais revenir à la base déjà. Sangor, je crois que il y a un exercice que vous devriez faire. Vous imaginez une personne, un garçon, qui ne s'appelle pas Sangor, qui a vécu les mêmes choses que vous avez vécues et qui arrive à être un étudiant talentueux. Déjà, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je penserais de ce petit garçon? Je pense que vous auriez une grande émotion et une grande admiration pour lui. Alors, comme on parle de vous, j'aimerais bien que vous preniez un petit peu de recul et que vous regardiez votre cursus en vous trouvant formidable, admirable et enviable. Puis, il faut faire des comparaisons.
Il y a déjà même un mot pour ça. On dit un élève méritant.
Ah, mais méritant avec une résilience extraordinaire. Et pour obtenir des bons résultats, en ayant eu des conditions difficiles, vous pouvez déjà savoir, au niveau psy, c'est très clair, que ça veut dire que vous avez une très bonne intelligence, que vous avez beaucoup de courage, que vous avez de la détermination. Et donc, par rapport à ceux qui ont une vie facile, vous avez incomparablement plus d'outils dans vos mains que les autres. Donc, plutôt que de penser vous êtes dévalorisé, enfin vous êtes encore dévalorisé, mais j'espère bien que ça va pas durer, il faut que vous voyez que ce que vous faites de dévalorisant est extrêmement injuste, parce que vous méritez de l'admiration, et de la reconnaissance. Alors, effectivement, lorsqu'on est un enfant et qu'on est défavorisé, le groupe a tendance à prendre cet enfant comme un bouc émissaire. Que cela vous serve comme expérience et pas du tout comme une justification. Hein? Donc, quand vous dites développement mental et cognitif, attendez, là, vous ne parlez pas de vous. Hein? Vous êtes sûrement brillant et en ayant les résultats que vous avez eus, vous ne pouvez que vous aimer à partir d'aujourd'hui. Je vous le souhaite vivement.
Peut-être vous entraîner pour l'oral avec un ami, avec un camarade de d'études, justement, pour faire des petites séances d'entraînement comme ça.
Tout à fait. Mais je pense aussi, c'est... Cette prise de conscience de sa valeur et de sa compétence font que le jour de l'examen, ne pensez qu'à l'examen et n'ayez pas le recul et de vous dire que vous êtes nul parce que vous ne l'êtes pas. Il faut que vous en ayez conscience. Et en général, quand on prend un recul et qu'on commence à se dire je ne vais pas y arriver, etc., c'est là que se mettent en place les freins. Donc, vous faites focus sur la matière, ayez le plaisir à restituer ce que vous savez et vous allez réussir évidemment. Et projetez-vous dans l'examen réussi parce que c'est par rapport à vos compétences. Vous devez réussir. Donc projetez-vous avec ce plaisir formidable que vous allez ressentir.
Vous avez l'air très modeste, Sangor. Est-ce que vous arrivez à dire « je suis courageux » ?
Oui, j'arrive parfois à le dire.
Bah, peut-être qu'il faut vous le dire un petit peu plus tous les matins en vous réveillant. Vous êtes courageux, c'est pas un projet, c'est une réalité, parce que sinon vous en seriez pas là.
Alors, courageux, et moi j'aimerais bien que tous les matins vous disiez « je suis formidable » et « mon chemin de vie me le montre, je suis quelqu'un de formidable ».
Voilà. Très bonne journée à vous, Sangor. Au revoir et bonne journée à Lubumbashi. On va tout de suite rester à Lubumbashi. Hein. Un autre auditeur nous appelle de cette ville de RDC, c'est Emani. Bonjour Emani.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Ok. Bon, comme mes prédécesseurs ont témoigné, je mérite de que moi, à moi, j'ai un sentiment de situation en fait. Commencé aujourd'hui. C'est depuis mon enfance, c'est-à-dire dans mon adolescence, quand parfois je revenais à la maison, en cas d'inerreur, les parents me reprenaient avec beaucoup de critiques, mais on dirait comme si ils me critiquaient en quelque sorte. Et même après les résultats de l'école, ils avaient des résultats qui sont contraires à leurs attentes. Et parfois, bon, je subissais toujours des critiques. Et aussi, concernant par exemple le courage en matière d'amour, hein. Je peux croiser une belle dame que je n'ai pas de courage pour l'aborder. Alors moi je me dis qu'elle risque de me ridiculiser, de me sous-estimer parce que je ressens comme des frissons en moi là. Et aussi une chose concernant, je suis étudiant, je peux me retrouver dans une conférence de presse, dans une conférence de débat, je suis. Après conférence et débat, on peut demander des questions dans l'ensemble. Et j'ai des arguments, je peux avoir des arguments, mais pour les manifester ou les démontrer, c'est tout un problème pour moi. Alors des fois, je me résigne,
Vous avez très peur du jugement des autres, vous avez peur de ces critiques, y compris quand vous souhaitez établir une relation avec une dame. Vous avez du mal à vous exprimer en public, mais vous l'avez dit, hein, docteur Gavard, Emani l'a dit tout à l'heure au début de son intervention. Il a été critiqué pendant toute son enfance.
Oui, donc le résultat est tout à fait logique et l'inverse serait très surprenant. Maintenant, il est certain que si, au lieu de regarder vos qualités, parce qu'on en a tous et on a tous des défauts, donc aller vers une femme et vous dire que finalement vous n'osez pas lui parler, là vous êtes sûr, vous avez un échec. Là au moins c'est tranquille et vous pouvez accumuler les échecs, ce qui vous dévalorise alors que vous n'avez rien fait, donc vous ne savez pas si ça aurait marché ou pas.
C'est quand même un moyen de se protéger d'une certaine
oui,
manière.
Oui, mais se protéger de quelque chose qui peut être sympathique. Donc c'est vraiment embêtant. C'est-à-dire, c'est anticiper un échec, anticiper un refus. Donc là, je pense que vous avez tout intérêt à prendre votre courage à deux mains et à les parler parce que de temps en temps, ça va fonctionner. Hein? Par ailleurs, lorsqu'il y a une conférence, dites-vous bien que si vous avez des questions en tête, d'autres personnes les ont aussi et n'osent pas parler. Donc, si vous avez ce courage-là, dites-vous que vous leur faites aussi un cadeau.
Voilà, Emani, pour ces conseils. On vous souhaite une excellente journée à Lubumbashi. Et on part pour le Mali, pour Bamako, où nous retrouvons Maya. Bonjour Maya.
Bonjour.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Merci beaucoup. Au fait, j'ai ma fille qui vit mal les plaisanteries de son entourage familial, au fait. Elle n'a pas confiance en elle. Elle vit mal ça. Je leur explique, ils ne prennent pas ça en compte. Ils se plaisantent avec elle. Vous savez, en Afrique, dans une grande famille, comme ça, c'est pas facile. On est obligé de vivre ensemble et la petite souffre. Même à l'école, elle se met à pleurer. Dès qu'on lui parle en classe, elle se met à pleurer. Parce qu'elle a redoublé aussi à l'école. Donc je me demande, est-ce que je devrais la faire sauter une classe pour qu'elle rattrape ses amis, si ça peut être une solution? Comment l'amener au fait à avoir confiance en elle?
Maya, vous essayez de protéger votre petite fille, vous dites aux autres d'arrêter de se moquer d'elle. Est-ce que vous lui faites des compliments vous-même?
Oui, mais elle ne me croit pas. Elle pense que je suis trop gentille avec elle. Elle croit plus aux autres puisque les autres sont plus nombreux. Et c'est des grandes personnes, plus âgées que moi, tout ça. Donc.
Et son papa, il est à la maison ou pas?
Bon. Vous connaissez, les papas sont tout le temps absents.
C'est ça.
Donc, c'est moi qui gère.
C'est vous qui gérez. Et il y a d'autres frères et sœurs?
Oui, elle a deux petits frères. Donc, eux aussi, ils suivent le même. Ils suivent ses parents. Ils sont timides aussi. Ils ne parlent pas beaucoup. Surtout avec leurs amis.
Et vous, vous sentez un petit peu impuissante, justement, parce que vous admirez votre petite fille et vous n'arrivez pas à lui transmettre ce message.
J'aimerais qu'elle soit une jeune fille qui a confiance en elle, ainsi que ses petits frères. Je n'aimerais pas qu'ils soient des gens timides qui se mettent à pleurer devant leurs camarades.
Vous voudriez qu'ils soient plus forts.
Je me demande si... Voilà. Et je dois gérer ça en plus. À côté aussi, il y a une cousine aussi. On est nombreux ensemble. Il y a une cousine aussi qui est jalouse d'elle. Elle est vraiment prête à tout pour lui faire mal. Il y a le même âge qu'elle. Que les autres ne remarquent pas, mais que c'est moi qui remarque. Parce que j'ai vu, elle a même brûlé la main de ma fille. Avec le gaz. Elle a tout simplement dit que après qu'on a enlevé la marmite, elle a dit à ma fille de poser la main, qu'il n'y a rien, que c'était pas chaud. Alors qu'elle venait de dehors, elle n'a pas su. Donc elle s'est fait brûler la main.
Donc là, il y a des mots méchants, mais il y a aussi des actes épouvantables. Docteur Marie-Claude Gavard, qu'est-ce qu'on peut dire à Maya pour qu'elle trouve les mots pour redonner de la force à sa petite fille?
Alors, je pense que bon, à 10 ans, un enfant comprend vraiment beaucoup de choses. Et je pense, Maya, que vous pourriez peut-être établir avec elle la liste de ses qualités, aussi de ses défauts, mais surtout de ses qualités. Et par exemple, au niveau de la cousine, lui faire la faire réfléchir sur le fait que la cousine est jalouse. Si elle est jalouse, c'est donc que votre fille a des choses très bien. Donc c'est important de lui faire analyser l'attitude de la cousine. Bon, je crois qu'au niveau de la cousine, il y a quelque chose à faire au niveau de ses parents, parce qu'une agressivité comme ça, si jeune, c'est tout à fait anormal et il faut cadrer ça. Donc, au niveau de votre fille, je pense que dans la famille, il peut y avoir un oncle ou un grand-père, enfin vous allez voir, l'image d'un homme qui lui disent qu'elle est une petite fille formidable. Et, bon, on lui dit qu'elle est maigre, etc. Vous pouvez aussi lui dire que plus tard, elle sera une très belle femme et elle sera pas grosse et les autres grosses seront très jalouses, vous voyez. Mais donc, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas que vous, parce qu'effectivement, elle pense que vous, comme vous êtes sa maman, vous pouvez même lui mentir en lui disant qu'elle est bien. Ce serait bien de trouver dans la famille ou un professeur, un instituteur qui la valorise. Et au niveau de vos fils, je pense que il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous manquez de confiance en vous? Est-ce que vous êtes timide? Parce que trois enfants timides, il y a quelque chose d'une inquiétude, vous voyez. Alors, est-ce que c'est le père qui ne participe pas suffisamment? Dans ce cas-là, peut-être un oncle peut aider. Mais trois enfants timides, il faut vraiment les aider en les valorisant, en les sécurisant et en leur disant à quel point ils ont des qualités.
Maya, vous avez déjà fait la démarche de nous appeler, ça veut dire que vous avez envie que les choses changent. Donc justement, en essayant de vous faire aider vous-même, ne pas tout porter sur votre dos à vous seul.
D'accord.
On vous souhaite une très bonne journée à Bamako. Est-ce qu'on peut dire à certaines personnes justement qui se sentiraient mal dans leur peau, qui manqueraient de confiance en elles, les orienter vers certaines activités, certains loisirs ou de la création artistique qui peut justement apporter une sorte d'appui, renforcer la personnalité?
Alors oui, vous savez, même le sport en fait, qui entraîne un certain bien-être. Mais quelquefois, les personnes timides n'osent pas s'exposer non plus. Alors le théâtre est quelque chose d'intéressant parce que on joue un rôle, on peut endosser un personnage qui a confiance en lui et on peut voir un peu comment ça fonctionne. Évidemment, je sais que il est difficile quelquefois dans certains endroits d'Afrique de trouver des thérapeutes, des psychologues. Évidemment, ce serait le mieux, parce que le résultat serait le plus rapide pour avoir un nouveau regard sur soi et un regard enfin juste.
Alors justement, on va partir tout de suite pour le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Prosper Gandao, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental universitaire de Borgou, à côté de Parakou. Professeur Gandao, à l'occasion de quel type de consultation, pour quel type de pathologie, est-ce qu'il vous arrive de pointer du doigt, justement, ce dont on vient de parler, qu'un patient souffre d'un manque d'estime de lui-même ou d'elle-même?
Effectivement, lors de mes consultations psychiatriques, on se rend compte que les patients viennent non pas pour une plainte qui concerne l'estime de soi-même, ils viennent soit pour des problèmes d'anxiété ou bien de dépression, et c'est en ce moment qu'on réalise qu'en dessous, il y avait déjà le manque d'estime de soi. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ont des handicaps physiques ou bien souffrent de pathologies qui sont rejetées comme l'épilepsie, ou bien les conséquences donc des fistules vésico-vaginales. En fonction donc du regard que la société porte sur ceux-là, effectivement présente quand ils viennent en consultation les symptômes en rapport avec le manque d'estime de soi, un mal-être en soi.
Et un certain...
maintenant, ces derniers jours,
maintenant,
il y a certains adolescents des scolaires qui viennent eux-mêmes suite à des émissions qu'ils ont suivies ou bien à des exposés, à des lectures, viennent eux-mêmes présenter quelques demandes de prise en charge pour ce mal-être.
Des adolescents qui disent qu'ils ont des complexes et qui vous demandent de l'aide, professeur Gandao, c'est bien ça?
Tout à fait, surtout les scolaires. Suite à des échecs scolaires ou bien aux commentaires portés donc sur le résultat, soit par leurs parents ou bien par les professeurs ou par les collègues qui se moquent d'eux, leur mettent beaucoup de complexes qui les amènent de temps en temps à vouloir demander de l'aide.
Justement, depuis le début de l'émission, on met en avant, professeur Prosper Gandao, l'impact de l'éducation sur cette auto-dévalorisation. C'est aussi quelque chose que vous constatez, justement, l'influence des commentaires, des agissements depuis l'enfance.
Tout à fait. Surtout dans notre milieu où l'éducation est très, très rigoureuse, où les parents, parfois, devant leur ambition déçue, exigent des enfants des résultats meilleurs à ce qu'ils ont eu eux-mêmes. Vraiment, cela induit au niveau de ces enfants une certaine dévalorisation, une perte de confiance, un manque d'estime en eux-mêmes, qui les amène de temps en temps, quand on s'intéresse à cet aspect de leur personnalité, à poser réellement les problèmes liés à l'éducation difficile, critique, où on leur apporte jamais de compliments.
Alors, un certain nombre de ces patients, j'imagine, professeur Gandao, avant d'arriver dans votre service, ces patients, pour la plupart d'entre eux, sont déjà passés entre les mains d'autres praticiens, notamment des médecins traditionnels?
Tout à fait. Ça, c'est pour les personnes âgées. Qui prennent les conséquences pour la maladie, parce que ayant manqué d'estime en eux, ayant manqué de confiance, subissent donc des échecs dans leurs relations, dans tout ce qu'ils entreprennent, et ils pensent que c'est lié donc à un mauvais sort qu'on leur a jeté, et peuvent demander de l'aide du côté des guérisseurs pour conjurer le mauvais sort, afin que la malchance dont ils pensent être victimes cesse donc de les suivre et d'endure à leur niveau de ces désagréments.
Alors tout à l'heure, on a déjà eu les échanges entre le docteur Gavard et nos auditeurs, mais quels conseils est-ce que vous pouvez leur donner justement à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, professeur Gandao, pour se sentir mieux dans leur peau?
à écouter effectivement ce qui se passe. Nous n'avons pas mené une enquête sur le plan national pour identifier tous ceux qui en souffrent, mais on se rend compte que beaucoup en souffrent et se cachent. Ils n'aiment pas en parler. Et je crois que la meilleure solution, c'est de pouvoir l'évoquer avec peut-être un spécialiste pour qu'ensemble, on voit les voies et moyens empruntés. Et il faut également qu'ils cessent de toujours ruminer tout ce qui est négatif en nous. Et il faut qu'ils fassent la part des choses entre tout ce qu'ils ont obtenu comme résultat, surtout les résultats positifs qu'ils ont eus. Et il faut qu'ils ne se disent pas que c'est un coup de la chance, mais savoir qu'ils ne sont pas rien. Donc, ils ne sont pas vraiment nuls et qu'il faut qu'ils jettent vraiment notre regard sur ces résultats et ne ruminent pas que les résultats négatifs. Et qu'ils acceptent donc de cesser de se juger à travers le regard des autres. Et il faut qu'ils oublient de faire la comparaison tous les jours et qu'ils s'adonnent à des activités qui les valorisent. Moi, je crois que le sport est une bonne chose. La chorale, la participation à des activités qui les valorisent et que les parents également soient informés. Désormais, il faut qu'ils cessent de toujours de faire ressortir chez l'enfant que les aspects négatifs qu'ils constatent. Ce sont autant d'éléments sur lesquels je pense qu'on peut insister pour pouvoir cerner un peu la question.
On peut dire, professeur Prosper Gandao, dites à vos enfants qu'ils sont bien, qu'ils sont beaux, qu'ils font des belles choses. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes également professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou, au Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
On vous retrouve, docteur Marie-Claude Gavard, pour la dernière partie de notre échange dans Priorité Santé. On continue de parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. Quelque chose d'important qu'a souligné le professeur Gandao, c'est l'impact de certaines maladies sur l'estime de soi, impossibilité de s'aimer soi-même. D'ailleurs, aujourd'hui, dans pas mal de services médicaux, il y a associé un volet psychologique justement pour surmonter cette épreuve.
Oui, c'est certain, parce que la maladie, on ne s'y attend pas. Et si elle est chronique et qu'elle entraîne vraiment des difficultés au quotidien, il y a besoin d'une aide pour modifier ses repères et aller stimuler ses ressources. Parce qu'on a beaucoup de potentialités qui sont endormies, qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher. Mais en cas de maladie chronique, il est important d'aller rechercher cette énergie, cette source d'énergie qu'on a en soi, et de modifier son regard de façon à s'aider soi-même. Hein, c'est-à-dire ne pas nier les choses, mais voir ce que l'on peut mettre en route pour avoir de la résilience, c'est-à-dire vivre avec cette maladie et vivre aussi bien que possible avec cette maladie.
On a parlé au cours de l'émission de l'impact pour les personnes qui se sentent mal dans leur peau, mais on peut dire que c'est parfois invivable pour l'entourage, docteur Marie-Claude Gavard, quand on est avec quelqu'un qu'on le trouve très joli, qu'on le trouve plaisant, qu'on le trouve fin et qu'il n'arrête pas de se dénigrer.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette personne met en mots sa douleur constante. Et il serait intéressant que l'entourage pousse à les consulter, mais souvent ce n'est pas accepté parce que la personne a l'impression qu'elle est consultée veut dire qu'elle est justement elle est pas bien, alors que c'est pour aller mieux.
On perçoit bien la complexité de trouver l'équilibre, hein, parce qu'on a parlé pas mal des parents, du poids de leurs mots, du poids de leurs critiques. Justement, trouver ce juste équilibre, ce juste milieu entre complimenter tout le temps, ce qui peut conduire certains enfants à se croire un peu les dieux du monde, et puis à l'inverse, dire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et accabler.
Mais c'est-à-dire dire à un enfant qu'il est merveilleux et qu'il est plus est une aberration parce qu'on est plus en rien. Donc voir qu'il a des qualités, les reconnaître, l'encourager, lui dire que les échecs ce ne sont pas des échecs, c'est un pas supplémentaire sur son chemin de vie parce qu'il doit apprendre et il faut répéter, se tromper fait partie de l'expérience et ce n'est pas un échec. De la même façon, pousser un enfant et ne pas le reconnaître, c'est-à-dire avoir une grande exigence qui, en général, parle du complexe des parents, hein, parce que comme ça, le parent ne voit pas ce qui est bon pour l'enfant, quel chemin l'enfant doit suivre. Donc, dans les extrêmes, il y a du malheur de toute façon. Et bonjour la psychothérapie.
Et en termes de conclusion, je vais vous lire un message d'un auditeur du Burkina Faso, un Douagadougou, Bernabé. Il a écrit sur la page Facebook de Priorité Santé, c'est un sage Bernabé, je le cite, « L'estime de soi est la première des armes contre tout obstacle. Cependant, trop d'estime de soi conduit à l'orgueil Il faut savoir faire la part des choses. Vous en pensez quoi, docteur Marie-Claude Gavin?
On peut y réfléchir, c'est très intéressant.
Faire la part des choses entre le trop d'estime de soi, on va dire l'orgueil, et puis cette dévalorisation, c'est justement encore une question d'équilibre.
Mais l'humilité est le réalisme, en fait, hein, parce qu'on a tous des qualités, tous des défauts. Donc, l'humain est névrosé, c'est-à-dire a des petits dysfonctionnements. Donc, il faut se regarder avec humilité, avec amour et avec encouragement.
Avec bienveillance.
Avec bienveillance.
Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard, d'avoir répondu aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris, et le titre de votre ouvrage, « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié aux éditions Marabout. On parle sport à présent dans Priorité Santé, activité physique avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors on entend souvent dire qu'il faut transpirer quand on a de la fièvre, hein, c'est un petit peu un lieu commun. Est-ce que faire du sport quand on est malade, c'est une bonne idée?
Il faut d'abord rappeler, Caroline, que le fait de faire de l'exercice physique, c'est excellent pour prévenir les maladies. On sait que ça booste le système immunitaire. Et donc le fait d'avoir une activité physique modérée, on sait par exemple, à la marche, le vélo ou la course à pied, ça réduit de moitié le risque d'infection respiratoire. Il y a des immunoglobulines qui se situent dans la salive et qui augmentent et qui permettent d'aider tout cela. Alors, si on souffre d'un simple rhume, et en fait, on sait qu'il n'y a aucun effet. On peut continuer les entraînements, il n'y a pas de problème, ça ne va pas créer de problème. Est-ce que ça va améliorer? On va dire que ça va dépendre des gens. En revanche, si on a une grippe ou une montée de fièvre avec une infection, par exemple, virale, c'est une très mauvaise idée de faire du sport.
Parce que là, c'est non. Hein.
Ah oui, là, c'est non, surtout non, parce que le système immunitaire va travailler de manière beaucoup plus problématique. Ça va, au contraire, même épuiser le système immunitaire. Et l'idée que si on a de la fièvre, il faut transpirer, c'est pas du tout une bonne idée.
Pourquoi? Quels sont les risques?
C'est un, d'affaiblir l'organisme, comme on vient de le dire, le système immunitaire. Et puis, c'est de fragiliser le cœur, parce que on dissémine véritablement le virus dans l'ensemble de l'organisme, et puis on peut créer une infection cardiaque qu'on appelle une myocardite, ou si c'est une bactérie, une endocardite aussi, qui est une maladie extrêmement grave, potentiellement mortelle.
Alors, docteur Sen, quel conseil, que faut-il faire en cas de fièvre?
En cas de fièvre, il faut d'abord respecter une période de repos, et une fois que l'épisode fébrile est terminé, là on peut reprendre le sport progressivement. En tout cas, ce qui est sûr, que même si le fait d'arrêter le sport est une décision difficile, il faut savoir le faire, d'attendre une semaine après la fin de la fièvre pour pouvoir reprendre l'exercice. Et on reprend comment? Et bien en faisant des longues marches, des entraînements modérés. Et si on se sent mieux, il n'y a pas de problème, on peut reprendre un entraînement normal. Si on est encore fatigué, on patiente encore un petit peu si on a des faiblesses musculaires ou des douleurs. Voilà, donc voilà quelques conseils pour nos auditeurs qui s'appliquent pour toutes les fièvres, sauf celle du samedi soir.
Saturday Night Fever avec Jean-Marc Sen. C'est mieux que John Travolta. Merci à vous, docteur Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, ça ne nous rajeunit pas. Médecin de l'équipe de France de judo. Vous retrouve prochainement, toujours en pleine forme, dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Aujourd'hui, c'est Toussaint Maquet, Juliette Brault, Didier Bleu et Laurent Hérault. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sunoa Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants, mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunoa Assurance, notre métier, l'assurance. Tout à l'heure.